Transcardinal Raymette, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, dernière chronique de la saison pour C'est bon pour la santé. On parle de maladies chroniques et ça devrait intéresser pas mal de monde parce que plus de 40 % de la population est touchée au Québec. Donc, soit nous, de façon personnelle ou un proche, et tout ça va probablement aller en augmentant en plus.
Oui, effectivement. Le nombre de personnes atteintes de maladies chroniques augmente partout dans le monde, hein, surtout dans les pays industrialisés. Et l'Amérique du Nord, bien sûr, n'y échappe pas. Alors, ce qui est particulier avec les maladies chroniques, c'est qu'elles se développent souvent à l'insu de la personne. Hein. Ça progresse tranquillement. Souvent, il n'y a pas vraiment d'indice. C'est lors d'un bilan annuel chez le médecin qu'on dépiste, par exemple, un début de diabète, une hypertension, parce que les signes ne sont pas toujours là au départ.
Oui.
Maintenant, l'autre caractéristique, c'est que les maladies chroniques sont là pour rester. Hein, quand le mot le dit, hein, chronique, alors c'est pour longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ces maladies chroniques, ces fameuses maladies dont on ne veut pas? Alors, je dirais qu'il faut tenter le plus possible les prévenir,
oui,
quand on peut le faire. Même si on en a déjà une, rien ne dit qu'on ne pourra pas en développer d'autres. Plusieurs personnes sont prises avec une complexité de problèmes de santé, ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, la comorbidité, où on peut être aux prises à la fois avec l'hypertension, le diabète,
l'obésité,
mm-hmm, un taux de cholestérol trop élevé dans le sang,
oui,
etc. Hein, on le sait, on connaît des gens qui sont aux prises avec ces problèmes-là. Et bien sûr, ça peut affecter plus tard la qualité de vie et contribuer à une grande perte d'autonomie.
Oui.
Les gens ne réalisent pas toujours. Mais même si on commence à être atteint, on se dit « Ah, ben oui, c'est pas si mal, je vis quand même normalement ». Beaucoup de gens aussi vont prendre des médicaments puis vont continuer leurs habitudes de vie en même temps en se disant « j'ai des médicaments, c'est correct ». Alors là, il faut peut-être se re-questionner par rapport à tout ça.
Et on peut travailler sur plusieurs volets pour arriver à les prévenir.
Oui, tout à fait. Parce que le deuxième volet dont on veut parler aujourd'hui, bien sûr, c'est comment les gérer, ces fameuses,
oui,
maladies-là.
Oui. J'ai été étonnée de voir que dans les maladies chroniques les plus récurrentes, vous avez parlé de diabète, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, de cancer, qui est,
oui,
une maladie chronique.
Oui.
Il y a aussi la dépression.
Oui, la dépression considérée comme une maladie chronique. Oui, l'Alzheimer aussi. Quelqu'un qui souffre d'une maladie d'Alzheimer, c'est une maladie, oui, chronique qui est évolutive, hein, finalement.
Parce que je pense que pour bien les prévenir, il faut les connaître, ces maladies-là.
Oui.
Les identifier aussi.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que les maladies chroniques les plus communes, là, je peux les nommer, il y a l'arthrite, hein, on en entend parler beaucoup, le cancer, on l'a mentionné, les maladies pulmonaires obstructives chroniques comme l'emphysème.
Mm-hmm.
On a également, bon, on l'a dit, le diabète, toutes les maladies reliées au système cardiaque. On a l'hypertension qui est vraiment un symptôme, finalement, d'une prochaine maladie, mais on l'appelle maladie quand même chronique, hein, l'hypertension. Puis les,
oui,
troubles de l'humeur,
oui,
dont aussi, là, on se raccroche la dépression.
À la dépression.
C'est ça.
Je veux revenir sur la prévention, France. Qu'est-ce qu'on doit avoir en tête pour,
oui,
tenter de les prévenir, ces maladies-là?
J'ai le goût de te répondre, Marianne, avec les facteurs de risque. Parce que c'est vraiment, quand on comprend tous les facteurs de risque, là, qu'on,
mm-hmm,
peut vraiment savoir comment on peut agir pour prévenir. Il faut comprendre que ces maladies-là sont le résultat souvent d'un phénomène très complexe, d'une superposition de facteurs. Alors, il y a des facteurs sur lesquels on peut agir, mais il y a des facteurs sur lesquels on peut moins agir.
Oui, comme
ou...
notre âge, par exemple.
Exact, hein, exact. L'âge, le sexe, le niveau d'éducation, bon, on le met comme facteur de risque. Là. Puis évidemment, notre constitution génétique. Hein,
ouais.
Ça, on peut pas changer. On est né avec nos gènes,
ouais,
et voilà. Il y a des facteurs sur lesquels on peut agir, puis... Même Dr. Richard Béliveau en parle souvent et toute la littérature est derrière lui et moi aussi, bien sûr. Ce sont les habitudes de vie, les modes de vie qu'il faut changer, entre autres le premier, le tabagisme.
Oui, et par la suite, l'alimentation.
Bien,
ouais,
sûr, l'activité physique, aller prendre l'air, apprendre à respirer comme il faut, à se détendre aussi pour pouvoir se sentir bien dans sa peau puis aller de l'avant. Mais effectivement, les facteurs, il faut agir sur l'obésité puis l'inactivité physique sont interreliés finalement à l'alimentation. Mais vient en premier lieu le tabagisme. Je,
ouais,
le répète encore, c'est si important. Maintenant, tout l'environnement, c'est un autre facteur. Hein? Des gens qui travaillent dans des environnements de travail où il y aurait des produits chimiques, bien, c'est sûr que ça peut affecter quelque chose dans le système de santé. L'exposition à des pesticides aussi, hein, on en parle même dans ce qu'on mange, il faut maintenant faire attention. Il y a certains fruits et légumes qui contiennent des pesticides. Alors, s'informer un peu à ce niveau-là
le
également.
Le soleil, on en parlait tantôt avec Dr. Langis Michaud. On s'en protège, c'est important.
Oui, pour éviter les cancers de la peau, effectivement. Et il y a aussi la pollution atmosphérique sur laquelle on n'a pas toujours... Je pense que les sociétés ont des rôles à jouer, des responsabilités, mais nous, comme individus, bien, on peut contribuer un peu, mais peut-être moins directement que d'arrêter de fumer ou de s'exposer à une substance quelconque là, qui pourrait vraiment endommager nos poumons ou notre système. Oui. Maintenant...
On parle peut-être de gestion parce que c'est au cœur de cette chronique-là, comment mieux vivre avec la maladie chronique. Et... vous dites quelque chose d'assez intéressant, France Rémette, c'est de s'engager dans notre traitement.
Exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Maintenant, la nouvelle tendance, c'est vraiment d'établir des partenariats. Les équipes médicales, là, ce qu'ils veulent, c'est établir des partenariats avec leurs patients et avec les familles. Ils ne demandent que ça. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut s'engager dans son plan d'intervention. Il faut écouter les consignes, mais il faut aussi interagir et dire, écoutez, cette consigne-là que vous me demandez de suivre, je ne serais pas capable pour telle, telle raison. Il n'y aurait pas une solution de compromis. Et les gens vont essayer de travailler avec la personne pour trouver d'autres solutions pour que la personne puisse quand même respecter d'une façon acceptable son plan d'intervention. Je le mentionnais tantôt, il y a des gens qui se disent que, bon, ben moi, j'ai des médicaments, je n'ai pas à m'en faire. Non, non, non. Il faut vraiment regarder nos habitudes de vie puis faire des modifications en complément avec la médication qu'on pourrait avoir à prendre, par exemple.
Oui.
Je donne ça comme exemple.
Et se renseigner sur la maladie chronique que l'on a.
Et oui, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, entre autres sur le web, pour les gens qui ont la possibilité d'aller sur le web. Il y a des associations, souvent, qui sont raccrochées aux problèmes de santé qu'on a. Mais il y a aussi ce qui a été développé dans les milieux de santé. Ce sont des cliniques qui ciblent, par exemple, le diabète ou les maladies obstructives chroniques au niveau pulmonaire. Des gens qui auraient des insuffisances cardiaques ou rénales ou autres. Il y a des équipes. Il y a aussi maintenant le concept des infirmières pivots, là, très important. Retenez ça, infirmières pivots. Souvent, même pour des cas de cancer en oncologie, là, on va référer à l'infirmière pivot pour comprendre ce qui se passe. Moi, j'ai été confrontée à ça moi-même. Pourtant, j'ai même écrit un livre sur le sujet. Oui. Et je m'occupais d'une personne âgée. Et j'essayais de voir le médecin, j'essayais de parler à l'infirmière-chef. J'avais l'impression de tourner en rond. Tout à coup, quelqu'un m'a mentionné le nom d'une infirmière qui était l'infirmière pivot de l'hôpital pour les cas de cancer. Et je suis descendue, je suis allée à l'étage, je l'ai rencontrée. Puis, j'ai rencontré une infirmière absolument accueillante qui connaissait tout le dossier de cette personne-là. Puis, c'était vraiment elle qui a pu m'informer là, comme il le fallait. Alors, il faut vraiment cerner qui s'occupe vraiment du dossier de la personne. Ce n'est pas nécessairement sur l'étage où est la personne. Il y a des personnes nommées, désignées dans les milieux de soins pour nous aider, nous accompagner.
Ouais. On pense qu'on est laissé à nous-mêmes, mais pas tant que ça. Il faut juste savoir cogner à la bonne porte, trouver cette porte-là en premier lieu.
Tout à fait.
Pour s'engager dans son traitement, dans ce parcours-là qui est teinté de la maladie chronique, on peut, comme vous le mentionnez, prendre un petit rendez-vous avec soi-même. Ça, c'est un truc que vous avez.
Oui, tout à fait. Je vous propose des questions à se poser pour prendre rendez-vous avec soi. Se poser les questions suivantes. Quelles sont les réactions que cette annonce de la maladie chronique a suscité en moi, tu sais, au niveau des attitudes, des émotions? Alors, prendre contact avec soi-même par rapport à comment on vit cette annonce-là, finalement. Quel est votre plus grand défi, inquiétude ou préoccupation concernant le diagnostic et l'évolution de votre maladie? Ça va peut-être vous aider à formuler des questions pour votre prochaine visite lorsque vous allez rencontrer le médecin ou l'infirmière. Pouvez-vous identifier ce qui pourrait vous aider le mieux? Qui pourrait vous aider le mieux aussi?
Ouais.
C'est une autre question, hein? De quelles informations avez-vous besoin pour prendre les meilleures actions pour vous, pour gérer vous-même votre problème de santé? Ça aussi, des fois, on manque d'informations, on ne sait pas trop se diriger. Alors, au moins, dire, bien, je ne comprends pas telle affaire par rapport à ma maladie. Je ne comprends pas la réaction que j'ai par rapport à telle chose. Pourquoi j'ai ça? Bon, bien, il faut s'informer à ce moment-là. L'écrire, n'hésitez pas à écrire, prendre des notes au fur et à mesure par rapport à vos observations, vos inquiétudes. Pouvez-vous identifier qui peut vous soutenir le mieux? Est-ce que c'est un proche, un professionnel de la santé qui vous accompagne? Ça aussi, c'est important. J'en ai parlé un peu tantôt, d'ailleurs.
Vous parlez aussi de ce qui peut être bien important dans ce processus-là, c'est de ne pas se culpabiliser, de ne pas se blâmer.
Oui, oui, effectivement. Parce que, ça donne, premièrement, ça ne donne rien. Mais il y a des gens qui vont dire « je me suis créé mon cancer ». On entend ça des fois. Il ne faut pas avoir cette attitude-là, mais pas du tout. Je le mentionnais, c'est complexe une maladie. Il y a une superposition de facteurs. Oui, ça se peut que la personne ait fumé et qu'elle ait un cancer au niveau des poumons, mais il y en a d'autres qui vont fumer puis qui n'en auront pas non plus.
Puis il y en a d'autres qui ne fument pas et qui en ont
exactement,
un aussi.
Exactement. Et oui, ça aurait été préférable de ne pas fumer, mais maintenant, là, on vit avec cette maladie-là. Alors, il faut partir d'ici maintenant et vraiment prendre soin de soi puis arrêter de se blâmer puis se culpabiliser. Pour moi, c'est très important, cet aspect-là.
Oui.
Puis aussi de ne pas accepter que les gens nous blâment. Ça aussi, c'est un autre aspect.
Oui, et ça devient assez complexe parce qu'une maladie chronique, et on n'en a pas beaucoup parlé, ça implique toute la famille et tous les proches.
Tout à fait, parce qu'on le voit, hein? Ah ben oui, on sait bien, elle avait tellement fumé à sa... Non, il ne faut pas avoir cette attitude-là. Puis il faut en parler avec les siens, puis leur expliquer comment ça peut nous blesser et même limiter notre guérison hein, par rapport à ce qu'on vit.
Ouais. Mm. Maintenant, vous avez, comme à l'habitude, des ressources pour nous, France?
Oui, j'ai des ressources pour vous. Alors, les ressources pour les proches aidants, l'appui, entre autres, qui peut être très intéressante. Il y a une foule d'informations, de solutions qu'ils peuvent vous fournir. C'est www.lappui.org.
Oui.
Il y a aussi un programme service pour les aînés à Service Québec citoyen où il y a une gamme d'informations très pertinentes, importantes à tous les niveaux, même légales et des ressources financières, etc. Alors, www.gouv.qc.ca. Il y a toutes les villes, les municipalités qui ont différents programmes communautaires et qui peuvent aussi vous orienter vers des organismes communautaires pour aller chercher des groupes de soutien. Il y a des classes d'exercice qui sont offertes. Aussi, il y a du répit qui peut être offert par le CLSC. Alors, le CLSC est toujours la ressource clé et pivot, là aussi, pour permettre un répit aux familles. Alors, aller cogner à la porte, c'est très important. Et il y a l'hôtellerie de la Fondation québécoise du cancer, la Société canadienne du cancer, qui peut favoriser des ressources d'hébergement pour les gens qui vivent en région. Pour les autres problèmes de santé autres que le cancer, bien, il y a des travailleurs sociaux, des CLSC, des hôpitaux qui peuvent vous orienter et vous donner certaines informations. Il y a aussi les fondations, comme Fondation des maladies du cœur, Fondation du diabète, etc., qui offrent des aides, une aide financière de dépannage dans certains cas pour des gens qui ont des gros problèmes financiers.
Et comme Maladie chronique va souvent avec Proche aidant, il y a toujours votre livre « Quand la vie se fragilise, un guide pour vous et vos proches aidants ». France Cardinal Remette, merci beaucoup, toujours un plaisir.
Merci Marianne.